Cours de philosophie politique par le père Philippe à Saint-Joseph le 12 mai 1987.
pratique avec la naissance, il tombe dans un milieu qui n'est pas uniquement pour lui. Ça explique les peurs, les pleurs et les grincements dedans, qui arrivent très très vite. Parce que, de fait, ce milieu n'étant pas uni en plus uniquement pour lui, affectivement, il y a un certain isolement. Et vous voyez, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a un traumatisme du passage de ce milieu à l'autre. Mais ça, c'est uniquement au niveau sociologique qu'on peut dire qu'il y a un traumatisme. Uniquement au niveau psychologique, au plan philosophique, non. Parce que c'est la finalité qui continue. Et qu'il y a une unité substantielle qui continue. Donc il n'y a pas de traumatisme au sens fort. Mais psychologiquement, oui. Parce qu'on passe d'un milieu où on est unique à un milieu... Il y en a plusieurs. Je me souviens, avec les psychanalystes, c'était leur grosse question. Quand ils me disaient, mais vous êtes quel numéro dans votre famille? Un petit numéro 7. Oh, quand vous êtes né, est-ce que ça a dû être quelque chose d'extraordinaire pour vous? Si je ne me rappelle pas. Milieu individuel, vous voyez, il y en a 7. Avant, ou il y en a 3 avant, ou 4 avant, ou 10 avant. C'est vrai, sociologiquement, c'est quelque chose de très particulier. On passe de l'aspect unique à l'aspect multiple. Affectivement, ça joue. Mais je ne crois pas qu'on puisse parler au sens strict, on peut parler d'un traumatisme psychologique. Peut-être, dans certains cas. Si les parents n'ont pas été suffisamment présents. Mais à côté des parents, il y a aussi les frères et sœurs. Et c'est admirable de voir, j'ai encore vu ça l'autre jour, à Rodez, une famille de je ne sais pas, ils étaient quoi, 5, puis un petit dernier. Et de voir autour de ce petit qui avait 4 mois, les tous, les 4 autour, au-dessus la mère et le père, il y a des médiateurs. C'est ce que je faisais comprendre à mes chers psychanalystes en disant, mais n'oubliez pas la médiation et que les frères aînés et les sœurs aînées jouent ce rôle. Et donc, c'est beaucoup plus doux. Parce qu'il y a des petites figures qui sont proche. Et c'est vrai, quand je voyais ces regards d'enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans, regarder ce tout petit, alors on avait envie de se mettre à la place du tout petit, de regarder ses visages autour pour le tout petit. Mais c'est des visages qui sont tout proches. Les regards des parents sont toujours un peu plus lointains. Ça, c'est important de se rappeler ça, parce que ça permet de ne pas de relativiser énormément ce que dit Freud là-dessus, qui n'est pas naturel. C'est pas naturel, c'est pas vrai. Donc la naissance qui vous met dans un milieu qui est le milieu de tous, et qui est le milieu familial. Et alors l'éducation maternelle commence. L'éducation maternelle a commencé dès le premier moment de la conception, c'est sûr. Mais cette première éducation maternelle était dans la passivité. Tandis qu'à partir de la naissance, l'éducation maternelle devient active, avec des initiatives. Et l'éducation du père vient coopérer très vite, surtout maintenant, avant beaucoup. Et en Amérique, quelquefois, le père est plus proche du tout petit que la mère. Il y a des choses particulières. Parce que nous, en Europe, on dépend d'une culture plus classique. Alors, cette culture plus classique fait que la mère est plus proche du tout petit enfant. nécessairement apparaît comme quelqu'un de violent pour le petit, qui est lié à sa mère. Et c'est vrai, le lien entre la mère et l'enfant, le tout petit et sa mère, sont des liens extrêmement forts qui continuent. Les liens de la gestation. Et le père apparaît comme arrachant. Mais vite, l'enfant dans le berceau, et puis viens. Oh, comme tu es lente, qu'est-ce que tu fais? Oui, tout ça, on voit très bien. Quand le père désire que son épouse soit avec lui, et que l'épouse quitte un peu l'enfant, mais oui, peut-être qu'il voit un peu moins, est-ce que c'est très vrai? Il faut passer attention. Il faut passer attention qu'il y a un petit qui encaisse. Et qui encaisse forcément. Même s'il ne dit rien, même si on, il encaisse. Il encaisse au moins le départ de sa mère. Ce qui est pour lui quand même quelque chose d'énorme. Puisque c'est le milieu vital. Encore une fois, dans chaque foyer, c'est différent, ça. Mais c'est toujours intéressant de voir. Pour nous. Et d'essayer de comprendre. Parce que c'est intéressant. Et c'est intéressant de voir ce que dit Freud pour ne pas tomber dans le panneau. Vous comprenez qu'en réalité, le père et la mère doivent jouer un rôle de complémentarité et non pas un rôle d'opposition dialectique. Le freudisme implique une dialectique comme raisonnement. Il ne faut jamais l'oublier. Et c'est ce qui explique la fragilité énorme du freudisme, parce que c'est une perspective dialectique au niveau de la vie. Ça et le surmoi, qui sont les deux extrêmes. Et puis le moi véritable, qui est la synthèse. C'est très très curieux de comprendre tout le freudisme par mode, justement, dialectique. Parce que c'est ça qui anime le freudisme. C'est une philosophie dialectique, d'opposition. Il faut comprendre que le rôle du père est complémentaire, c'est l'autorité. Alors, il semble bien, voyez, que l'autorité ne doit apparaître qu'au moment où l'intelligence pratique est capable de saisir l'intervention de l'autorité. Et la responsabilité du père dans l'éducation, c'est justement de donner une image de l'autorité paternelle qui soit vraie. C'est-à-dire qu'il soit dans le sens d'une coopération avec l'éducation maternelle et non pas une opposition. Ce qui exige du père une très grande abnégation. C'est pas drôle pour un homme de laisser une femme passer devant. Or, dans l'éducation, Dieu veut que la femme passe devant et que la mère passe devant. Ça, c'est voulu par Dieu. Et le fondement, c'est la maternité et la mère qui porte son enfant durant la gestation. On ne changera pas ça, on essaie aujourd'hui de changer, vous savez bien. On fait des essais. Mais ça restera toujours artificiel. Et donc, ça ne dira rien sur les lois profondes de la nature humaine et de la sagesse divine, surtout. Parce qu'un art qui va contre les choses essentielles de la nature ne peut pas durer. C'est un art éphémère, c'est un déracinement, c'est une exploitation, c'est pas une coopération. Et ça, il faut être très attentif à ça. Je vous ai déjà dit ça. Surtout quand il s'agit de politique. Il faut être très attentif à la distinction de la coopération avec une nature vivante et exploiter le terrain. C'est pas commode à discerner, mais c'est un problème qu'on doit voir constamment en politique. Parce que je crois que c'est ça qui fait le partage des eaux entre une politique purement libérale et une politique qui soit réaliste dans la coopération et une politique marxiste. C'est dans ce lien qu'on, et qui se voit en premier lieu du côté de l'éducation. Qui se voit d'une façon parfaite dans l'ordre alors du fin de gérer, dans l'ordre du travail. Mais c'est les deux extrêmes, je crois. crois que c'est les deux extrêmes qu'on doit toujours bien voir. Donc, l'éducation, qui est un art. Puis le travail. Alors, ce moment dialectique si important. Maître et esclave, qui sont, selon Hegel et selon Freud, dans une position dialectique d'opposition. Le bien de l'esclave et le bien du maître s'opposent. Et la position aristotélicienne, que je crois être vraie, réaliste, c'est que il faut une coopération. Le bien du maître et le bien de l'esclave s'unissent dans un bien commun. La naissance du bien commun. Chose extrêmement importante au point de vue politique. La naissance de ce bien commun. Eh bien, il y a la même chose ici, du côté de l'éducation. Il y a la même chose du côté de l'éducation. Voyez la position freudienne. La mère. Cela doit être regardé tout le temps comme le triangle fondamental de base, non pas comme la dialectique, mais comme le triangle fondamental de base. Père, mère, enfant, une coopération dans l'ordre de l'éducation. Dans cette éducation, il est évident que le rôle de la mère demeure du côté de la cause matérielle, une causalité enveloppante. La mère crée le milieu dans lequel le petit être pourra se développer. Et la mère crée ce milieu de mille façons. Ce n'est pas la peine d'entrer dans les détails. On a tous fait cette expérience. Que c'est le propre de la mère de créer un milieu de vie et de croissance dans l'ordre de l'éducation. Donc ce n'est pas l'autorité qui domine dans la mère. C'est le don généreux. C'est le don d'elle-même. C'est quelqu'un qui accepte d'agir d'une façon très souterraine, très cachée, et qui accepte d'agir sur les dispositions sensibles, physiques. exercer cette disposition sont vraiment le fruit premier, principal de cette éducation. Le père, au contraire, va représenter l'autorité. Et donc il y a toujours un peu quelque chose de séparé chez le père. Segregatus ut imperet, dans la parole d'Anaxagore qui est si forte. Être séparé pour commander. Si vous êtes trop lié, vous ne pouvez plus commander. Si vous êtes trop copain, vous ne pouvez plus commander. C'est impossible. C'est absolument impossible. Il faut accepter d'être séparé. Dès qu'on a un rôle de commandement, il faut accepter la séparation. C'est rude, c'est très rude. C'est pas drôle du tout pour la nature humaine. Mais il faut l'accepter. Autrement, on ne peut plus. Et alors, le père doit jouer ce rôle. Vous voyez, comme le père a abdiqué dans notre monde aujourd'hui. Parce qu'il ne veut plus l'exercice de l'autorité. Et ne voulant plus l'exercice de l'autorité, il affaiblit l'enfant. Un enfant qui n'obéit pas et qui ne sait pas ce que c'est qu'obéir reste fragile et extrêmement fragile du côté affectif. Qu'est-ce qui fortifie notre affectivité? C'est l'obéissance. Faut jamais l'oublier. Et un être qui ne sait pas obéir, qui n'a jamais obéi de sa vie, il est une fragilité. Il se croit autonome, il n'est pas du tout autonome. Parce qu'il n'a jamais précisé les limites de son autonomie. Et tant que vous n'avez pas précisé les limites de votre autonomie, vous ne savez pas ce que c'est que l'autonomie. Et donc vous êtes très fragile. C'est très très important de comprendre ce rôle du père dans la famille. Ce rôle de l'autorité. Alors qui doit être une autorité qui a été extrêmement... Ce rôle de l'autorité qui doit être dans la douceur et qui doit être dans la force et qui doit permettre à la mère d'avoir sa place et à l'enfant d'avoir la sienne. On comprend très très bien comment on, je ne précise pas qui, essaie d'évincer le père de la communauté. Parce qu'en évinçant le père de la communauté, on supprime la possibilité pour l'enfant de développer sa force. Et donc, on lui enlève ses vertèbres spirituellement. Donc d'avoir son autonomie. Parce que ça s'acquiert quand on est jeune, ça. Après, c'est toujours une rééducation et c'est toujours beaucoup plus difficile. Le noviciat est là pour pallier à ça. Mais même le noviciat, c'est pas si commode que ça parce qu'on ne s'en rend pas assez compte. Mais c'est très important. Bon, on comprend ce rôle particulier du père et de la mère qui doit aboutir justement au terme de leur vie. Précisons maintenant l'intervention de l'étang. La famille n'est pas tout. L'étang va intervenir de deux manières magistrales. Au niveau du travail, au niveau de l'instruction. L'enrichissement Parce que ce n'est pas du tout la même chose. La finalité de l'éducation, c'est de former une personne humaine. Ne disons pas que la fin de l'éducation, c'est la vertu. Ça, c'est stoïcien de dire ça. Tandis que si on est réaliste, on doit dire que la fin de l'éducation, c'est de former des personnes humaines. Et l'acquisition des vertus est un moyen. Mais c'est pas le moyen qui spécialise. Partiel. Et le instruisant. On éduque forcément. On doit respecter l'éducation de la famille. La famille a un droit sacré vis-à-vis de l'éducation, puisque le point de vue de la première éducation, le point de vue de la génération, est ordonné à faire de chaque membre de la famille des personnes. Des personnes religieuses, des personnes humaines, des personnes qui savent vivre. Et le bagage d'instruction est donné plus ou moins par l'État. C'est l'État qui doit respecter ce point de vue de l'instruction, qui doit veiller à cette instruction. Mais cette instruction ne doit pas être en opposition vis-à-vis de l'éducation. Et alors là, il y a un partage des eaux qui est très difficile et qui est source de conflits constants. L'éducation libre, c'est nécessaire, elle est familiale. L'éducation est familiale, qu'on le veuille pas, elle est familiale, tandis que l'instruction n'est pas familiale. Elle commence à la famille, mais elle n'est pas familiale. Elle fait sortir l'enfant de la famille. Ça, c'est très très net. Et plus vous êtes dans des hautes écoles, plus l'enfant est séparé de sa famille. Tandis que l'éducation le relie toujours directement à la famille. Il y a des traditions familiales. Et c'est dans ces traditions familiales que l'éducation familiale se fait. Tandis qu'il n'y a pas de traduction, de tradition du côté de l'instruction. Il y a des hautes écoles qui ont leur panache, qui ont leur gloire. Mais c'est des hautes écoles. Donc, une fois qu'on a compris cette distinction, il y a beaucoup de faux problèmes qui dérègolent. Parce que ça fait comprendre comment d'un côté la famille réclame l'État et s'appuie sur lui. Et d'un autre côté, comment la famille maintient ses droits face à l'État. Le droit à l'éducation. Il y a l'éducation qui a jusqu'à la personne droit au niveau religieux et au niveau chrétien. Mais droit au niveau humain. Et ceci, c'est propre, justement, à la famille. Et cette instruction va connaître des degrés différents suivant la qualité du maître. Et là, il y a quelque chose qui est important à toujours bien préciser, que l'enfant, quand il grandit, a un certain droit à orienter sa vie. Le choix du métier, c'est du côté de l'instruction, puisque l'instruction est à la fois scientifique et pratique. Et cette instruction étant scientifique et pratique, il doit y avoir un choix. Et l'aspect dialectique n'est ni pratique ni spéculatif. Faut pas l'oublier, c'est une confusion entre les deux. Dès que vous distinguez l'instruction scientifique et l'instruction pratique, vous êtes en dehors de l'égalianisme, parce que vous cherchez la vérité. Alors l'instruction implique les deux, et on doit choisir, et l'enfant doit pouvoir choisir. Alors comme souvent il ne sait pas, c'est les parents qui choisissent pour lui. Influence maternelle, hein. On me dit, je te connais, il vaut mieux aller de ce côté-là, tu verras. Et on le fait jusqu'au fond, à moins d'avoir d'a priori terrible, d'avoir un nom qui était dans l'intelligence pratique et qui avait faillite, ou bien des gens spéculatifs et qui avaient faillite. Alors à ce moment-là, on a peur, il y a des a priori, parce qu'il y a des ratés partout. Il y a des ratés du côté éducation, du côté instruction. encore plus que la famille. Et l'État intervient à un niveau sociologique, au niveau psychologique. On fait des tests pour savoir si vous êtes plus orienté vers le point de vue pratique que vers le point de vue spéculatif, comme si on était incapable de pouvoir se discerner soi-même. Bien heureux ceux qui n'ont pas été testés dans ce domaine-là. On fait pas encore ça pour les curés. Vous voyez ça? Un État intelligent devrait faire ça pour les curés. Alors il dirait, voyez, il y a une part d'instruction. Oui, mais la vocation, elle se situe où? Elle se situe du côté éducatif. Parce que c'est un choix de l'homme au niveau de la fin. Ici, c'est les moyens. La vocation personnelle, elle se situe du côté de l'éducation. Et la fin qu'on choisit, est-ce que c'est une fin séparée? Est-ce que c'est une fin immanente? La fin séparée, c'est l'attitude religieuse. La fin immanente, c'est le point de vue humain. Et l'instruction est au service de la vocation de l'homme. Sacerdoce, foyer. Et donc tout se tient quand on a compris un tout petit peu comment le point de vue de l'éducation et le point de vue de l'instruction doit se distinguer. Dans l'ordre de l'instruction, on doit aussi choisir, l'enfant doit choisir. Mais ce qui est surtout important, c'est sa vocation. Parce que le choix, ça peut aller jusqu'à un métier, parce que l'art est impliqué ici, au point de vue pratique, l'art. Donc, on peut orienter sa vie vers le point de vue de l'art, mais toujours cette finalité-là est commandée par celle-là, par le point de vue de l'éducation. Et l'éducation dans le sens le plus fort. L'éducation religieuse, l'éducation chrétienne, l'éducation humaine. Et là, vous faites tout de suite la distinction, tandis qu'en ce qu'il s'agit de l'instruction, regardez si est bien utilisée, ce qui permet à l'homme de s'épanouir le plus possible. C'est l'épanouissement de l'intelligence. Ça donne la structure de la personne. Mais c'est pas la personne. C'est autre chose. La personne, c'est toujours le point de vue de la finalité. C'est pour ça que c'est quelque chose de beaucoup plus intérieur. Et ceci est donné par le point de vue de l'éducation. Donc, comprenons. Une fois qu'on a vu un peu ces différents aspects, réfléchissons un instant sur les ingérences de l'État par rapport à la famille. Puisque maintenant on a montré ce qu'était la famille et comment la famille apparaissait comme la cellule fondamentale au point de vue politique et au point de vue